Est-ce qu'il y a moins de maltraitance, de conflits, d'abus de pouvoir, d'opacité des finances qu'ailleurs? En d'autres termes, est-ce qu'il y a une spécificité qui pourrait être positive de la question des relations dans l'Église? Et puis, comment doit-on aborder la question de leur gestion, de ces relations? A-t-on des outils spécifiques, des pistes particulières à explorer? Je ferai deux remarques préliminaires. La présence du Saint-Esprit, en lequel nous croyons. Évidemment, il est un allié pour la gestion des relations dans l'Église. Il peut singulièrement compliquer les situations. Parce que je vous donne un exemple, lorsque dans une réunion, mettons, d'équipe d'animation pastorale, chaque fervent participant qui a été élu, qui est un catholique pratiquant, a prié tout seul le Saint-Esprit avant la réunion, et puis en début de réunion, tout le monde prie ensemble le Saint-Esprit, donc inspiration directe, peut-on penser, et puis au moment d'une décision difficile qui peut toucher une personne, la gestion des finances ou bien d'autres choses, les décisions apparaissent et les options apparaissent contradictoires. Ça peut être très troublant. Est-ce que le Saint-Esprit de A se trompe et celui de B a raison? Est-ce que je n'ai pas assez prié? Est-ce que l'autre n'a pas assez prié? Voilà, donc ça peut être une chance. C'est une chance, le Saint-Esprit, c'est notre foi. Ça peut être une complication, ça peut engendrer beaucoup de raideur. J'ai prié, donc le Saint-Esprit m'inspire, donc j'ai raison. L'autre a tort. Deuxième remarque préliminaire, la peur est extrêmement présente dans l'Église concernant les relations. La peur du scandale, je ne m'étendrai pas plus que ça sur les questions de pédophilie, mais il est évident qu'elle traverse cette question-là, mais il n'y a pas que la pédophilie qui ne fonctionne pas dans l'Église. La peur du scandale, la peur de porter atteinte à la communion, à l'unité. Le Christ nous a dit combien il tenait à l'unité entre nous. Il y a un conflit où on voit quelque chose qui ne fonctionne pas. On n'en parle pas parce que ça va faire des embrouilles et puis ça va blesser Madame Machin et puis ça va faire un conflit et on a peur d'attenter à l'unité. On a donc peur. On aborde les difficultés de l'Église avec beaucoup de peur. Sans compter que la peur du conflit, elle est anthropologiquement présente dans l'Église, ailleurs et partout. Voilà, ce que je vous propose, c'est un parcours à travers les Actes des Apôtres qu'on va dérouler, 28 chapitres des Actes des Apôtres, qui sont finalement ce que nous avons dans la tête lorsque nous abordons l'Église. J'ai intitulé la première partie de la grande illusion à l'âpre découverte. Parce que quand on fréquente l'Église autrement que participation a minima à la messe, a minima ça ne veut pas dire qu'on n'y croit pas, mais bon, juste participation, lorsqu'on s'engage éventuellement un petit peu ou beaucoup dans l'Église, le plus souvent c'est parce qu'on le souhaite, donc on se présente, je pourrais faire de la catéchèse, ou bon, voilà, où on est appelé, et donc on en a envie, et si on est appelé, c'est plutôt une expérience de reconnaissance, une expérience heureuse. En général, il peut y avoir tous les cas de figure, il ne fait jamais rien absolutiser. Mais souvent, on aborde donc l'Église dans une situation plutôt heureuse, on a envie de participer à la vie de l'Église. Ce qu'on s'attend à trouver, c'est les images des quatre premiers chapitres des Actes des Apôtres. Je vais vous donner un certain nombre de citations des Actes des Apôtres, de ces quatre premiers chapitres, et puis ultérieurement, parce qu'il faut, vraiment les lire. « Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière. » Ça commence quasiment comme ça. Il y a la question de il y a le récit de la Pentecôte, le discours de Pierre, 3000 conversions, une église au top. Hein, 3000 conversions, vous avez déjà vu ça, 3000 conversions en un jour avec 3000 baptêmes, là, comme ça, monsieur le curé fait un discours, 3000 baptêmes, 3000 conversions, bon, donc vraiment, ça marche très bien. Ça, c'est le chapitre 1. Au chapitre 2, pour ceux qui n'avaient pas compris que vraiment, les premiers temps de l'Église, ça baignait, tous les croyants, je vous cite, hein, les Actes des Apôtres, tous les croyants ensemble mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, en partageaient le prix entre tous, selon les besoins de chacun. Jour après jour, d'un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, rompaient le pain dans leur maison, prenant leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu, ils avaient la faveur de tout le peuple, y compris les chefs de l'Église. Et chaque jour, le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. Donc, vous voyez, on a déjà deux occurrences dans les Actes des Apôtres de cette communauté absolument exemplaire. Chapitre 4, ça continue. La multitude des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais entre eux, tout était commun. Tous jouissaient d'une grande faveur. Aussi, parmi eux, nul n'était dans le besoin. Entre-temps, il y a eu 5000 conversions supplémentaires. On est à 8000 en quelques jours. Les Actes des Apôtres ne nous disent pas en combien de temps, mais bon, ça succède assez vite. Baptême immédiat à la clé, des guérisons, quelques emprisonnements. Ce sont les premiers temps de la vie de l'Église. Le paradis n'est pas perdu. C'est le paradis. On découvre aussi ça dans l'Église quand on commence, et même quand on continue d'ailleurs. Il y a beaucoup de lieux, on prie ensemble, on exerce la charité, on se respecte les uns les autres, on s'aime. Ça existe beaucoup. Donc, on va dans les débuts, avec peut-être la grande illusion, se dire que ce qu'on vit là, c'est l'Église. Les relations à l'épreuve dans l'Église. Vous plaisantez. On a lu 4 chapitres des Actes sur 28. L'âpre découverte. Donc je rappelle, fin du chapitre 4, les derniers mots du chapitre 4 des Actes. Barnabé vendit son champ, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. C'est pas beau ça? Sans aucune transition. Il y a un point, et ensuite, chapitre 5, verset 1. Un certain Anani, d'accord avec Saphire, sa femme, vendit une propriété. Il détourna une partie du prix, de connivence avec sa femme, et apportant le reste, il déposa aux pieds des apôtres. Anani lui dit alors Pierre, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, que tu mentes à l'Esprit Saint et détournes une partie du prix du champ ?» Quand tu avais ton bien, n'étais-tu pas libre de le garder? Et quand tu l'as vendu, ne pouvais-tu disposer du prix à ton gré? Comment donc cette décision a-t-elle pu naître dans ton cœur? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Entendant ces paroles, Anani tomba et expira. Une grande crainte s'empara alors de tous ceux qui la prirent. Les jeunes gens vinrent envelopper le corps et l'emportèrent pour l'enterrer. Au bout d'un intervalle d'environ 3 heures, sa femme, qui ne savait pas ce qui était arrivé, entra. Pierre l'interpella. « Dis-moi, le champ que vous avez vendu, c'était bien tant ?» Elle dit « Oui, tant. » Alors Pierre, « Comment donc avez-vous pu vous concerter pour mettre l'Esprit Saint à l'épreuve ? Eh bien, voici à la porte les pas de ceux qui ont enterré ton mari. Ils vont aussi t'emporter. » À l'instant même, elle tomba à ses pieds et expira. Une grande crainte s'empara alors de l'Église entière et de tous ceux qui apprirent ces choses. L'absence de transition, c'est un choc. Et on imagine qu'ils ont dû être assez choqués, les apôtres. Et c'est toujours la même histoire. C'est une histoire de création. On est dans Genèse 3, la création et la chute. La création de la première communauté d'église, c'est le paradis, et puis la chute, et c'est l'enfer. Et les Actes des Apôtres, ils nous racontent ça. Et je vous rappelle juste que dans Genèse 3, on est exactement dans les mêmes termes d'absence de transition. Et tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. Point. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Donc, ça passe comme ça de l'un à l'autre. Le mal est là, soudain, puissant, inexplicable. Soudain, mais le plus souvent progressif. Parce que dans nos expériences à nous, le plus souvent, c'est peu à peu qu'on va découvrir la réalité de l'Église. Peu à peu, d'autant plus qu'on a des filtres puissants et qu'on va beaucoup, beaucoup essayer de faire rentrer nos images dans l'idéal qu'on a perçu des actes des apôtres et peut-être de nos débuts dans l'Église. Donc on a des filtres puissants et puis la peur du scandale, la peur de faire des embrouilles, mais il y a des éléments qui dérangent. On découvre peu à peu que il y a beaucoup de critiques et de commérages, on vient vous raconter des choses et puis vous en racontez peut-être vous-même. L'argent, il y a un peu de confusion, un peu d'opacité des comptes, il y a des circuits qui ne semblent pas tout à fait clairs, il y a des options qui sont prises par certains et pas par d'autres. Alors qu'en principe, l'argent, c'est l'argent d'une paroisse, l'argent d'un mouvement, ça se gère collectivement. Il y a des exercices de pouvoir, il y a des gens qui en humilient d'autres, il y a des cachotteries, des mensonges, des questions qu'on évite. Et là, on va éprouver un certain malaise. On va entendre des gens qui prennent des libertés par rapport à la foi. Par exemple, des gens qui disent « Bon, moi, dans la préparation au mariage, vous comprenez, les jeunes fiancés, moi, je leur parle pas de l'indissolubilité au mariage parce que tous leurs parents sont divorcés. » Et tout ça va venir grignoter cette image idéale qu'on est venu chercher dans l'Église. On est venu se mettre au service de l'Église pour vivre des relations idéales qu'on trouve un peu, mais qu'on ne trouve pas complètement. Et c'est une épreuve, c'est douloureux, c'est dérangeant. Alors, on va avoir des réactions diverses. On va augmenter le filtre et se boucher les yeux. Ça dure un temps. On va prier plus. On a tout à fait raison. La prière est très utile. Elle n'est pas toujours toute puissante pour faire advenir la vérité ou gérer les conflits. On s'en va. Expérience très courante. Les gens, ils ont vu quelque chose qu'ils ne voulaient pas voir dans l'Église, ça casse l'image de l'Église, et donc ils s'en vont. S'ils retournent dans un autre lieu d'Église, ils vont faire à peu près le même parcours, parce qu'il y a sûrement des lieux où l'Évangile est plus vécu dans l'Église que d'autres, mais les relations humaines étant ce qu'elles sont, tout le monde s'y colle, et dans le bien et dans le mal. Et d'ailleurs, je voulais vous dire que je ne parle pas des autres. Je parle de moi et je parle de nous. Vous imaginez bien que j'ai fait mes propres expériences dans l'Église. Ceux qui sont engagés font les vôtres. Il ne s'agit pas de dire que les autres, c'est pas bien et que nous, on est bien. C'est nous, c'est moi qui fait tout ça, qui vit tout ça et qui contribue et au bien et au mal de l'Église. Il y a la peur du scandale, donc on va pas, ça j'en ai déjà parlé. On peut attendre prudemment de vérifier ses intuitions, mais il y a un vrai malaise en général dans les gens qui s'investissent dans l'Église et qui en ont une image idéale, dans cette perception que peu à peu, c'est pas le royaume déjà là qu'on imaginait. On en parle, alors quelquefois on va en parler à tort et à travers, à la voisine, les commérages et tout, hein, on fait tout, enfin bon, moi je fais ça, donc peut-être vous aussi, hein. Quelquefois on y réfléchit bien et on va en parler à la bonne personne en ayant pris le temps de bien analyser parce qu'on estime qu'on a vu quelque chose et qu'il faut faire quelque chose, hein. Là, eh ben, on est entendu ou on n'est pas entendu. On peut se heurter à « ça ne vous regarde pas, ça a toujours été comme ça, vous savez, cette personne, elle est tellement dévouée, donc évidemment, là, c'est pas tout à fait clair dans les comptes, là, l'argent, mais enfin, vous savez, elle se donne tellement de mal, bon. Et puis, vous savez, elle donne beaucoup d'argent aussi à l'Église. Bon, des excuses, des excuses, des excuses. Vous pouvez vous heurter au pouvoir clérical. À un moment, laïque bute contre eux, surtout institutionnellement, plus que personnellement. Hein. Personnellement, je pense que ça peut arriver, mais je pense que c'est surtout à un moment où vous vous heurtez, si les choses sont assez graves et que vous montez dans la hiérarchie de l'Église et dans la hiérarchie cléricale, il y a un moment, vous avez une barrière. Le laïc ne la franchit pas. C'est peut-être pas toujours comme ça, ça peut être comme ça. Bref, c'est une situation extrêmement difficile, qui vous met au pied du mur, qui vous vous demandez ce que vous allez en faire, quoi. Est-ce que vous continuez à travailler dans cet univers, entre guillemets, dont vous percevez des médiocrités? Est-ce que... c'est éprouvant, c'est une épreuve. Et ce qui, dans le même sens, vous trouble encore un peu plus, c'est que les mêmes qui... pique un peu dans la caisse, sont un peu caractériels et se mettent en colère, éventuellement vous humilient, ou vous assistez quelquefois à une scène, vous dites merde, mais moi je me le dis, on traite pas les gens comme ça quand même. Bon, dans le même temps, ces mêmes personnes, elles ont organisé des tables ouvertes pour les SDF, ça marche super bien, c'est génial. Bon. Dans le même temps, elles prêchent une retraite sur la douceur, le même que vous avez vu allumer la femme de ménage parce qu'elle lui avait rangé son bureau et qu'il ne trouvait pas ses papiers. Le même, il prêche une retraite sur la douceur, mais tout le monde pleure. Bon. Alors, c'est troublant, ça, hein, c'est troublant. Et peut-être qu'Anani et Saphir, Anani, c'était un type qui avait une parole extraordinaire. Il a peut-être fait 1500 conversions à lui tout seul, mais il a aussi piqué dans la caisse. Bon. Alors, tout ça, ça vous trouble terriblement. Et puis, ce qui vous trouble aussi, c'est que, et là, je me rejoins sur les Actes des Apôtres, juste après Anani et Saphir, exactement à la fin, là où ils sont tous les deux morts, par les mains des apôtres, ils se faisaient de nombreux signes et prodiges parmi le peuple. Ils se tenaient tous d'un commun accord sous le portique de Salomon. Des croyants de plus en plus nombreux s'adjoignaient au Seigneur, une multitude d'hommes et de femmes. La mission n'a pas l'air d'en pâtir. Vous vous dites, c'est épouvantable ce que j'ai vu, tout le monde va quitter l'Église. Non, ça continue et il y a des fruits extraordinaires. Et là, les Actes des Apôtres nous racontent sur 28 chapitres comme une succession de vagues. Des vagues, entre guillemets, de mal et des vagues de bien. Des vagues où la mission semble en danger, et elle l'est. Et puis, sans transition, c'est comme ça, en tout cas, que les Actes des Apôtres nous le racontent. Et je crois que c'est l'expérience aussi qu'on vit. On est obnubilé tout d'un coup par ce qu'on a vu qui nous paraît troublant et ce qu'on fait nous-mêmes. Et puis, d'un autre côté, il y a quelque chose, une énergie, une initiative géniale qui naît. Tout ça, ça se mélange. Et c'est ça la vie de l'Église. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pas l'idéal de la communauté qui fait beaucoup de bien. C'est pas l'horreur d'Anani et Saphir et d'autres, hein, et ce qu'on voit d'autres. Ce qui est intéressant et ce auquel il faut, je ne veux pas dire s'habituer, mais en tout cas auquel il faut consentir, c'est cette succession de vagues. Et je vous parle d'épisodes que vous relirez ou que vous connaissez, les murmures des hellénistes contre les Hébreux pour la négligence des veuves, et on verra tout à l'heure comment les apôtres gèrent cette situation. Et puis Simon le magicien qui tout d'un coup, avec son charisme, il se convertit, il a un charisme, une espèce de charisme de magie, il se convertit, bon ça va très bien, puis tout d'un coup il se dit, je pourrais peut-être monnayer mes talents. Alors il va voir Pierre en disant, tout ça c'est bien joli, moi je donne beaucoup de temps, vous connaissez pas ça? Moi je donne beaucoup de temps, alors bon quand même peut-être que je pourrais gagner un petit peu d'argent. Et c'est aussi ce qu'on vit dans l'Église, ce bénévolat très dévoué, et puis à un moment on se dit, bon, mais alors il y a des salariés, il y a des bénévoles, tout ça n'est pas facile du tout à gérer, et peut être le lieu de conflits, de difficultés, de jalousie, de commérages, de critiques. Bon, la vie, quoi. Et on va avoir, alors il y a les deux controverses sur la question, est-ce qu'on peut manger avec les païens et est-ce que les baptisés issus du paganisme doivent être circoncis? Mais je vous assure que ça chahute, on s'échauffa, disent les Actes des Apôtres. Et on va à Jérusalem, il faut envoyer Paul et Barnabé, ils vont interroger les apôtres. On imagine que ça a dû être une grande affaire, ces choses-là, ça a bousculé, ça a dérangé. Et puis une fois que la controverse est purgée, on va voir plus tard comment, les conversions reprennent. Et tout ça, ça se succède comme ça. C'est ça, la vie de l'Église. Mais ces controverses qui ont beaucoup bousculé, une fois qu'elle est terminée, ça a dû quand même laisser des traces. On a l'impression que la question est terminée. Mais quand même, je vous lis un passage juste après. Paul dit à Barnabé, retournons donc visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir où ils en sont. Mais Barnabé voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Paul, lui, n'était pas d'avis d'emmener celui qui les avait abandonnés en Pamphylie et n'avait pas été à l'œuvre avec eux. On s'échauffa, et on finit par se séparer. Voilà, ça baigne modérément. Barnabé prit Marc avec lui, il s'embarqua pour Chypre. De son côté, Paul fit choix de Silas et partit après avoir été confié par les frères à la grâce de Dieu. Et ça, ça fait aussi partie des illusions dans l'Église. On pense que dans l'Église, il faut être ami avec tout le monde. Attendez, on n'est pas ami avec tout le monde. Dans une paroisse, il y en a qu'on peut pas. Il y en a quelques-uns qu'on adore, quelques rares uns qu'on aime beaucoup, beaucoup qu'on aime bien, quelques-uns qu'on supporte, et puis d'autres qu'on hait. Mais c'est la réalité. Bon. Et quelquefois, il y a des collaborations qui sont pas possibles aujourd'hui. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Et on croit que le oui est plus évangélique. Mais Jésus n'a pas dit, dites oui parce que c'est plus évangélique. Jésus a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Et je l'entends, mon interprétation, c'est ne pas dire oui en voulant à quelqu'un de vous avoir demandé et que vous n'avez pas su dire non. C'est-à-dire, gardez votre oui serein ou gardez votre non serein. Et ça, il y a énormément de problèmes de gens surchargés dans l'Église auxquels on demande toujours la même chose et tout. Ils disent oui. Alors vous savez, bon, monsieur le curé, il faut qu'il trouve quelqu'un pour. Ben, celle qui dit oui, ben, ou celui qui dit oui, et tout. Faut dire non. C'est pas mal de dire non. Et il n'y a personne pour tenir le stand du vide-grenier du diocèse. Eh bien, il n'y a personne. C'est pas parce qu'il n'y a personne qu'il faut que vous y alliez si vous ne voulez pas y aller. Et ça, c'est une source très importante de conflit. Je termine ce survol des actes avec ce que dit Paul à l'église d'Éphèse. « Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau dont l'Esprit-Saint vous a constitué intendant pour paître l'église de Dieu, acquise par lui au prix de son propre sang. Je sais, moi, qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups redoutables qui ne ménageront pas le troupeau et que du milieu même de vous se lèveront des hommes qui... » Je passe la suite. Ces loups, c'est certains, c'est quelquefois nous. Nous sommes quelquefois comme des loups dans l'Église, c'est notre réalité. Donc, là aussi, je ne parle pas des autres, je parle de nous. Ça fait partie de la vie de l'Église et des relations dans l'Église. En tout cas, il la confie, Paul. Il perçoit des dangers. Il doit bien voir qu'il y en a là-dedans qui vont grenouiller dès qu'il va partir. Ils attendent que Paul s'en aille pour prendre le pouvoir, pour ceci, pour cela. Il les confie à Dieu. Et ça, ça dit aussi quelque chose d'une attitude possible. L'Église, c'est pas mon Église. C'est pas ton Église. C'est peut-être notre Église, mais c'est surtout l'Église du Christ. Et nous sommes au service de l'Église du Christ. Et quand il y a des choses, et ça c'est une piste, quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, je crois qu'il faut s'en occuper, on va le voir, on peut aussi confier et pas vouloir partir en croisade contre des dysfonctionnements qui ne sont pas de notre ressort. Deuxième partie des balises pour le chemin d'une gestion évangélique des conflits. Il faut donc passer de la vision idyllique d'un royaume de Dieu réalisé dans toute sa plénitude à la réalité d'un royaume de Dieu déjà là, mais pas encore là, dont nous sommes les acteurs en bien comme en mal. Et il faut donc développer le bien et lutter contre le mal. Que nous disent les actes ? Ananie et Saphir, vous vous rappelez l'histoire. Ce que fait Pierre ? Pierre a le courage de voir. Il ne se ferme pas les yeux, il ne se dérobe pas, il est sûrement scandalisé, mais il ne se scandalise pas. Il n'a pas peur du scandale et du conflit. Il n'a pas peur que ça se sache. Il fonce et il parle directement. Il intervient en face, il contrôle. En matière d'argent, il y a beaucoup de problèmes de l'Église qui seraient peut-être améliorés s'il y avait, dans les lieux de détention de l'argent, du contrôle de l'argent. Vous comprenez, c'est pas parce qu'on est au service de la gloire de Dieu qu'on est tous devenus des gestionnaires avisés ou honnêtes. Il y a des gens qui ont quand ils ont trop d'argent dans les mains, ils ont la tentation d'en prendre un peu, ceci, cela. Et je crois qu'il est légitime et justifié de contrôler les finances et de ne pas, parce qu'on est à la gloire de Dieu, trouver et tout fermer les yeux. Il recommence avec Saphir, qui l'interroge, donc il refait la même chose. Après, avec Saphir, il l'interroge pour savoir. Les jeunes gens enterrent les corps, donc il n'a pas une attitude d'humiliation ou de dégradante. Il les voue pas aux gémonies. Il meurt, on ne sait pas très bien comment, ça, bon, ce n'est pas le lieu de s'interroger, mais il envoie les jeunes gens enterrer les corps, donc voilà, il reste dans la communauté chrétienne. Simplement, voilà. Le fruit de son attitude, qui est une attitude carrée, précise, il agit, et en même temps il n'humilie pas, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est un don du Saint-Esprit. Donc le fruit de toute son attitude, c'est la crainte de Dieu qui se répand parmi tous. Ce qu'il ne fait pas, il va pas en parler à tout le monde, sauf à Anani et à Saphir. Il n'humilie pas, il ne moralise pas, il n'excuse pas, il ne morigène pas, il ne fait pas rendre l'argent, il ne crée pas une commission pour gérer la question. Il avance et il agit. Il ne se justifie pas, il ne commente pas, parce que juste après cet épisode, comme je vous ai dit, la mission continuait, ils étaient tous d'un commun accord dans le temple. Alors, je vous passe une deuxième scène. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans les actes lors de la situation, les murmures liés au favoritisme entre les Hébreux et les Grecs concernant les veuves. Les douze prennent les murmures au sérieux. Ils ne disent pas, ils sont jamais contents ceux-là. Ils sont jaloux qu'ils se débrouillent entre eux. On n'a pas le temps. Il y a des choses plus importantes quand même. La mission, c'est quand même pas ces histoires. Quelle pitié, ces dissensions. Ça va s'arranger. Il ne crée pas une commission pour acheter plus de nourriture, pour organiser. On va faire des jours pairs pour les Grecs et des jours pour les Hébreux. Ils n'organisent pas. Ça fait rire, hein ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils convoquent l'assemblée des disciples et leur délèguent la responsabilité de choisir parmi eux sept hommes de bonne réputation. Donc, ils prennent la question au sérieux. Ils convoquent l'assemblée. Gestion collective, et il désigne dans une délégation précise, claire. Il désigne ce qui doit être fait. C'est très important, la délégation claire. Hein. Ça fait beaucoup souffrir les relations quand on dit « vous n'avez qu'à vous en occuper ». Puis après, alors les gens s'en occupent comme ils peuvent. Bon, ils ont des idées qui sont plus ou moins pertinentes, que la durée va peut-être considérer comme non pertinente ou au contraire très bien. Non, c'est très précis. Les délégations, c'est très important. Les lettres de mission, tout ça, ça doit être très important, très très cadré. Sinon, vous êtes tout le temps dans des conflits de. Alors, il y a quelqu'un qui s'en occupe, et puis quelqu'un qui s'en occupe encore un petit peu aussi, et puis tout le monde s'en mêle ou personne ne s'en mêle. Alors, vous allez dire, moi c'est fini, parce que moi j'ai tout fait, et puis ils n'étaient pas contents et tout, tout. Bon, délégation précise. Il ne passe pas en force. Parce que, une fois que cette proposition est faite, on lit la proposition plus à tout le monde et l'on choisit. Donc, il y a un équilibre, vous relirez le texte, il y a un équilibre entre tous, quelques-uns, chacun. C'est très très intéressant, ça. Et en même temps, tous, c'est précis, chacun, c'est précis, quelques-uns, c'est précis. Et ils reprennent la main, puisque ce sont les apôtres qui vont imposer les mains aux diacres, pour gérer la question des tables et des veuves. Donc, ce qu'ils ne font pas, c'est négliger. Les relations souffrent. Peut-être que les Hébreux, les Hébreux, les Grecs, peut-être qu'il y avait un peu de jalousie, peut-être que tout ça n'était peut-être pas tout à fait limpide, mais n'empêche que les relations étaient à l'épreuve, les relations étaient en souffrance, et donc ils font quelque chose. Et ils ne négligent pas, ils ne font pas tout, ils ne font pas rien. Ils réfléchissent, ils prennent le temps. Hein, on se dit qu'ils avaient dû, ils étaient, pourtant ils prenaient beaucoup de temps pour la mission, mais ils ont pris le temps de cette question-là. Et finalement, ils trouvent une solution qui va s'avérer, on espère, satisfaisante. En tout cas, on n'en parlera plus. Hein. Les controverses. Vous, ça va ? Je vous suivez, ça va. Bon, c'est, voilà, parce que ça va très vite dans les actes et tout, et donc je vous. Vous perdez un peu le moral. Attendez la fin. J'espère que vous ne perdrez pas le moral. Attendez la fin. Les controverses. La première, c'est manger avec les incirconcis ou pas. Voilà, dans le judaïsme, on n'avait pas le droit de manger avec les autres. Bon, il s'explique. Pierre s'explique tout seul et il raconte des faits. Il ne se justifie pas, il n'interprète pas, il ne crée pas une commission, il ne fait pas signer une pétition ou il n'organise pas un club pour le défendre. Il s'y colle directement, il les affronte directement et il raconte des faits. Moyennant quoi, les autres s'apaisent. Pour la controverse à Antioche sur la question de la circoncision, question absolument clé, hein. Est-ce que les autres sont accessibles au salut, sont sauvés, et est-ce qu'il y a des rites, des passages obligés ? On ne dit pas, Pierre ne dit pas ou ils ne disent pas. Qu'est-ce que c'est ces histoires ? Ils ne peuvent pas s'adapter comme tout le monde ? C'est du temps inutile à l'annonce de la parole, ça. Et puis Dieu est bien loin de tous ses rites. Dieu ne s'occupe pas de ces questions-là. On se trompe d'enjeu, là. On perd du temps pour la mission, là. Arrêtez avec ces histoires. Ils ne disent pas non plus. Mais enfin, ils veulent tout, ces païens. C'est trop facile. Nous, alors, juifs convertis, on a subi la circoncision et puis eux, ils voudraient éviter ça. Mais la suite du Christ, c'est la croix. Alors s'ils ne veulent pas devenir chrétiens, bah, qu'ils le disent tout de suite. Ou bien, mais vous rêvez, on ne va pas leur imposer la circoncision, sinon on n'aura personne. Personne ne va se convertir. L'important, c'est qu'ils soient sauvés. Ce n'est pas qu'ils se convertissent, et c'est qu'ils soient sauvés. Ce n'est pas qu'ils soient circoncis. Alors on les en dispense, et puis je ne vois pas où est le problème. Non, ils prennent cette question très au sérieux. On s'en réfère à Jérusalem, on envoie quelques-uns à Jérusalem, on prend énormément de temps pour cette question, qui est une question extrêmement importante. Mais dans leur marathon sur la mission, les apôtres des premiers temps, puisqu'ils sont tout le temps au temple, les guérisons, quand ils n'y sont pas là, ils sont en prison, ils sont libérés, ils repartent au temple, enfin bon, ils trouvent énormément de temps pour gérer ces controverses et ces situations. C'est éclairant. Est-ce que nous prenons énormément de temps pour gérer la situation des conflits et des difficultés dans l'Église et des relations à l'épreuve dans l'Église ? Je ne sais pas. Je ne fais que poser la question. Là, à Jérusalem, la controverse se renforce encore un peu. Alors on écoute. Pas tout le monde. On n'est pas du tout dans les actes des apôtres, dans la démocratie participative. On commence par là. Votre avis, on ne s'interrompt pas, votre avis. Non, pas du tout. Il y a quelques-uns, on écoute quelques-uns, et puis à partir de là, Jacques, lui, juge que. Et il va juger qu'on n'a pas besoin d'obliger à la circoncision, ils vont faire une lettre, et on va diffuser et communiquer la lettre. C'est-à-dire qu'il y a une écoute des gens concernés, pas nécessairement tout le monde n'est pas toujours compétent en tout, hein. On écoute ceux qui sont reconnus comme tels compétents et Jacques, à un moment, décide et puis on écrit une lettre et il y a marqué « Alors les apôtres et les anciens, d'accord avec l'Église tout entière. » Et j'aime à penser qu'entre Jacques, lui, juge que et d'accord avec l'Église tout entière, on a communiqué, on a expliqué, on a parlé, on a écouté. Du temps, du temps, du temps. Les relations, ça prend du temps. Si ça pouvait gérer 100 ans, ça se saurait. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que les conflits sont réglés dans les actes des apôtres. Et en même temps, les mots sont suffisamment forts pour qu'on se rende compte que ça a dû être dur, qu'ils se sont trouvés dans des situations très délicates, très difficiles et des conflits très importants. qui auraient pu les déchirer et qui ont sûrement déchiré certains. On ne nous dit pas qu'il y en a peut-être quelques-uns qui sont partis, voire beaucoup qui sont partis, on ne sait pas. Mais en tout cas, l'Église dont nous sommes, ces premières communautés chrétiennes dont nous sommes les héritiers, et qui ont demeuré malgré tous les aléas de l'histoire, ils ont pris, me semble-t-il, beaucoup de temps à gérer les relations à l'épreuve. Que faire de tout ça pour ne pas se démoraliser trop? Aimer l'Église, avec lucidité, aimer l'Église pour servir le Christ. Je ne crois pas qu'on puisse servir le Christ sans aimer l'Église. Je ne crois pas qu'on puisse servir l'Église sans aimer l'Église. Pourquoi? Pourquoi aimer l'Église? Je ne vous ferai pas un tableau sur ses imperfections. Si, pour ceux qui en doutaient encore, tout ce qui s'est passé autour des questions de pédophilie nous met les idées en place. L'Église, elle est imparfaite, elle est pécamineuse, elle est blessante, elle est scandaleuse. Alors à quoi ça sert d'aimer l'Église? Peut-on tout simplement aimer l'Église? Mais justement, c'est bien parce qu'elle est ainsi imparfaite qu'il faut l'aimer. Le Christ l'a aimé. Paul, dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle, comme pour nous. Il s'est livré pour nous, il s'est livré pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant. Lucide, Jésus, fallait la sanctifier déjà à l'époque. Par le bain d'eau qu'une parole accompagne, car il voulait se la présenter à lui-même toute resplendissante comme nous la rêvons, toute resplendissante comme nous la rêvons, sans tache ni ride, rien de tel, mais sainte et immaculée. Il faut aimer l'Église parce que Jésus l'a aimée. Il faut, en tout cas, je pense que il faut aimer l'Église parce qu'elle est notre mère. Je cite Saint Cyprien, on ne peut avoir Dieu pour père si on n'a pas l'Église pour mère. Alors, on a Dieu pour père ou pas? Eh bien, si on a Dieu pour père, on a l'Église pour mère. Logique. Parce qu'il en va de l'annonce de la bonne nouvelle, de la mission du Christ par l'Église, à la fois dans sa dimension personnelle et communautaire. Jean 13, à ceux-ci tous vous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et l'amour les uns pour les autres, c'est hors de l'Église, mais c'est aussi dans l'Église. Il faut aimer l'Église parce que seul l'amour permet l'unité et la communion. Et ça, c'est le grand, grand message du chapitre 17 de l'Évangile de Jean, que tous soient un. Eh bien, pour être un, il faut aimer. Comment aimer l'Église? Parce que c'est bien joli de se dire, moi, je voudrais aimer l'Église, elle me gonfle, mais je voudrais quand même l'aimer. Ben oui, mais comment, hein? C'est quelquefois, d'abord, elle nous blesse, quelquefois tant, et puis elle blesse d'autres, et puis on voit des choses. Comment aimer l'Église? C'est pas du tout une question d'affect ou de sentiment. On l'aime pas parce qu'elle nous plaît. C'est un amour de passion, au sens de la passion du Christ. C'est un amour douloureux, l'amour de l'Église. C'est aussi un amour heureux parce que je suis plutôt partie sur les difficultés dans l'Église, mais on vit des choses géniales dans l'Église et l'Église aussi nous rend heureux. Un amour de passion, comme le Christ a eu et a un amour de passion pour l'Église. Concrètement, je crois que c'est très profondément consentir à ces vagues, à cette succession que l'on constate dans l'Église d'événements et de missions et de choses extrêmement positives, de rencontres extrêmement fécondes et puis d'horreurs. C'est ça l'Église, c'est les deux. Et c'est le mouvement de l'un à l'autre qui est la vie de l'Église. Et je crois qu'il est très important de consentir profondément, c'est une attitude spirituelle, le consentement. Consentir à ce qu'elle soit ainsi et résister à l'envie de se dire, eh ben, si c'est ça l'Église, eh ben, moi je me tire. On peut avoir de très bonnes raisons de quitter l'Église, c'est pas ça. Mais pas parce qu'elle est pécheresse. Évidemment, elle est pécheresse puisque nous le sommes. c'est cesser de se plaindre des autres. On se plaint beaucoup des autres dans l'Église. Alors là, on trouve que les autres dans la mission, c'est quelque chose, hein. Et alors, on va, vous voyez, par exemple, on se scandalise. Pierre ne se scandalise pas d'Ananie et Saphir. Il est scandalisé. C'est pas du tout la même chose, hein. Et on est scandalisé parce que les enfants du catéchisme se tiennent bruyamment à la messe et ça pourrait décourager les catéchumènes de venir. Il faut absolument qu'elles fassent quelque chose, cette responsable de catéchisme, parce que, vous voyez, la messe, c'est le bazar maintenant. Les jeunes catéchumènes, ils viendront pas. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être qu'ils trouveront ça sympa qu'il y ait des enfants. Ou bien le curé prend un coup de sang contre les jeunes qui laissent la salle en désordre, eh ben ils vont pas revenir l'année prochaine. Toute comparaison, vous savez, comme il y a marqué, avec des personnes et des situations, bon. Ou bien, Madame Machin fait les photocopies de l'école de ses enfants sur la photocopieuse paroissiale. Alors, on n'aura plus d'argent pour remplacer les linges d'autel. C'est la liturgiste qui parle, là. Les linges d'autel, c'est important. Bon. Ou bien, le AP ne se refuse rien pour son dîner de bilan d'année. Ça choque les donateurs aux deniers, ils ne donneront plus rien. Et patati, et patata. Vous pouvez en rajouter autant que moi. Aimer l'Église, c'est demander au Christ d'aimer son Église. Surtout si elle ne le mérite pas. Et on peut prier. Je vous cite une prière de saint Thomas More. Donne-moi une âme sainte, Seigneur, qui ait des yeux sur la beauté du monde et sur la pureté. On pourrait dire sur la beauté de l'Église et sur la pureté de l'Église. Afin qu'elle ne s'épouvante pas en voyant le mal, mais sache redresser la situation. Voilà, cité par le pape François en décembre 2014. Et puis c'est se mettre dans la boucle de la lucidité concernant l'Église. Je crois qu'il est très salutaire qu'on voit l'Église telle qu'elle est. Il ne faut pas du tout se fermer les yeux sur ce qu'on voit. En dehors, on n'est pas là en croisade pour s'occuper de la sainteté des autres. Hein. Occupons-nous de la nôtre. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais chez moi, il y a suffisamment de boulot pour m'occuper sans que j'aille voir ailleurs comment ça fonctionne. C'est un combat spirituel d'aimer l'Église. C'est pas... Elle me plaît, mon Église. C'est un combat spirituel d'aimer l'Église. Et je crois que c'est un combat qui mérite d'être mené au nom de l'amour que nous avons pour le Christ, au nom de notre suite du Christ et au nom de la mission de l'Église. C'est pratiquer la correction fraternelle. Et ça, je vais vous lire une longue citation du pape François sur la correction fraternelle, dans son homélie du 12 septembre 2014. Nous ne pouvons corriger une personne sans amour et sans charité. On ne peut en effet réaliser une intervention chirurgicale sans anesthésie. C'est impossible, parce que sinon le patient meurt de douleur. Et la charité représente comme une anesthésie qui aide à recevoir le traitement et accepter la correction. Il faut donc prendre notre prochain à part, avec douceur et amour, et lui parler. Il faut parler en vérité. Ne pas dire des choses qui ne sont pas vraies, cela s'appelle de la calomnie. Ou si elles sont vraies, on s'arroge le droit de détruire la réputation de ces personnes. Les commérages blessent, ils représentent des gifles à la réputation de telle ou telle personne. Ce sont des gifles portées au cœur de l'autre. Parler avec humilité. Si tu dois corriger un petit défaut chez l'autre, pense tout d'abord que tu en as personnellement, de tellement plus gros. Un signe qui peut-être nous aider, c'est le fait de ressentir un certain plaisir quand l'on voit quelque chose qui ne va pas et qu'on estime qu'il nous faut exercer une correction. Il faut être attentif parce qu'alors ça ne vient pas du Seigneur. Quand cela vient du Seigneur, il y a toujours la croix et l'amour qui nous porte, la douceur. Nous, chrétiens, nous avons cette fâcheuse tentation nous extraire du jeu du péché et de la grâce, comme si nous étions des anges. Eh bien non. Prions donc, afin que le Seigneur nous aide à exercer ce service fraternel, si beau mais si douloureux, d'aider nos frères et sœurs à devenir meilleurs, et qu'il nous aide à le faire toujours avec charité, en vérité et avec humilité. On trouve dans les lettres de Paul beaucoup de consignes, conseils, hein, bannir le jugement, ne pas se surestimer, n'avoir de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, accueillir les faibles dans la foi, tout ça, beaucoup de conseils. Tout ça pour goûter les fruits de l'amour, les fruits de l'amour du Christ, les fruits de l'amour de l'Église, ce sont les mêmes, ce sont les fruits de l'Esprit Saint, charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Tout ça, on le vit dans l'Église, on a envie de le vivre dans l'Église. Ça vaut le coup de se donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal sur les relations, pour les relations à l'épreuve. Et peut-être, ça sera parmi les questions que vous allez travailler tout à l'heure, on ne prend peut-être pas assez le temps de soigner les relations dans l'Église. Ça irait sans doute mieux, ce ne sera jamais parfait, hein. N'ayons pas d'illusions. Je termine par la prière du patriarche Athénagoras, sans doute que certains d'entre vous connaissent, sur le combat spirituel. Et aujourd'hui, je l'applique à l'amour de l'Église, qui est encore une fois un combat. Il faut mener la guerre la plus dure contre soi-même. Il faut arriver à se désarmer. J'ai mené cette guerre pendant des années. Elle a été terrible. Mais maintenant, je suis désarmée. Je n'ai plus peur de rien, car l'amour chasse la peur. Je suis désarmée de la volonté d'avoir raison, de me justifier en disqualifiant les autres. Je ne suis plus sur mes gardes, jalousement crispée sur mes richesses. J'accueille et je partage. Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets. Si l'on m'en présente de meilleurs, ou plutôt non, pas meilleurs, mais bons, j'accepte sans regret. J'ai renoncé au comparatif. Ce qui est bon, vrai, réel est toujours pour moi le meilleur. C'est pourquoi je n'ai plus peur. Quand on n'a plus rien, on n'a plus peur. Si l'on se désarme, si l'on se dépossède, si l'on s'ouvre au Dieu homme qui fait toutes choses nouvelles, alors lui efface le mauvais passé et nous rend un temps neuf où tout est possible. Et c'est précisément parce que les relations y sont fortement à l'épreuve que le Christ nous demande d'aimer l'Église, parce que sinon il n'aurait même pas besoin de nous le demander, nous le ferions de nous-mêmes.